Mes parents allaient très souvent à la bibliothèque de quartier. C'était très très grande lectrice. Et du coup, ils avaient un arrangement spécial avec notre petite bibliothèque de quartier du Lac de Maine, près d'Angers, où ils leur filaient des caisses de livres. Donc je me rappelle qu'on partait avec des caisses de livres en vacances, que ça prenait un peu le plus de place par rapport au reste des affaires.
Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures de milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe, celle du Centre Pompidou à Paris. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Aujourd'hui, je rencontre Juliette Drouard, l'un des invités du festival Effraction en 2025 pour son premier roman « Cui-cui » paru au Seuil. Écrivain, militant, artiste et thérapeute, co-auteur du livre « La culture de l'inceste » et auteur de « Sortir de l'hétérosexualité », Juliette Drouard invente cette fois la vie d'un ado de 13 ans qui, en 2027, s'apprête à voter pour la première fois et à découvrir ce qui semble finalement logique en soi. Les mineurs peuvent avoir des droits. Sous le ton léger de ce livre, sa langue joueuse et inventive, un sujet profond est abordé. Juliette va nous en parler. Devant la bibliothèque du Centre Pompidou, j'ai demandé à Juliette s'il venait ici souvent.
Souvent, non, parce que je suis très, très casanier, je suis dans le 20e. Mais oui, je suis déjà venu voir des super belles expos ici. Ouais.
Vous avez un souvenir ?
Louise Bourgeois, je crois, mais c'était il y a quelques années déjà. Ah non, bah non, j'ai vu Garoust.
Ah, ouais.
Ah, j'adore Gérard Garoust, c'est mon peintre préféré.
On y va ?
Carrément.
Je lui ai ensuite proposé de m'emmener dans ses rayons préférés pour y piocher les livres qu'il aime le plus ou qui l'ont inspiré. Sur le chemin, il m'a raconté la soirée de lancement de son premier roman qui a eu lieu quelques jours auparavant.
Ouais, une grosse fête, j'avais envie de faire... C'est un peu l'anniversaire que tu m'as organisé mais que t'as jamais fait.
Ah ouais.
Du coup, je me suis dit, bon allez, hop, je balance tous les potes.
Bonjour. Juste le sac, oui. Je vais juste poser ça.
Est-ce que c'est un lieu que vous fréquentez souvent, la bibliothèque ?
Alors, pas tant que ça, même si je vais à la bibliothèque de mon quartier de temps en temps, pour éviter d'exploser mon budget livre. Bah, j'aime bien acheter des livres, en fait. J'achète peu de choses, mais les livres, c'est vrai que je trouve ça cool encore de les acheter. Et puis, j'avoue que je suis un peu avide quand je vois un livre. Je suis là, ah, je veux trop ce livre maintenant, tout de suite. Et je me dis, ça fait des droits d'auteur aussi pour les personnes qui écrivent. Et je trouve ça merveilleux qu'il existe des bibliothèques aussi pour les grands et grandes lectrices et les personnes qui ont peut-être moins de moyens pour acheter des livres.
Vous avez toujours été comme ça avec les livres ou est-ce que vous avez eu une période où vous alliez plus en bibliothèque, par exemple dans l'enfance ?
Eh bien, mes parents allaient très souvent à la bibliothèque de quartier. C'était très, très grande lectrice. Et du coup, ils avaient un arrangement spécial avec notre petite bibliothèque de quartier du Lac de Maine, près d'Angers, où ils leur filaient des caisses de livres. Donc, je me rappelle qu'on partait avec des caisses de livres en vacances, que ça prenait un peu le plus de place par rapport au reste des affaires. Des souvenirs assez flous de mon enfance. Je me souviens de deux livres que j'avais, mais achetez-moi, ado, parce que ça m'avait marqué en tant que jeune lesbienne. Enfin, je sais même pas si je me réfléchissais comme ça, mais en tout cas, je voyais qu'il y avait un petit trouble dans le genre. Et j'avais acheté le livre de Nina Bouraoui, Garçon manqué, et un livre de Lucia Echevarria, Les corps célestes, voilà, qui traitaient tous deux de ces sujets-là. Et ouais, le livre Garçon manqué, je crois que, je sais pas, il m'a... Brio, je me rappelle de Brio, qui était un personnage qui est un jeune garçon manqué, je pense qu'on pourrait dire ça un peu comme ça.
Là, on est en train d'avoir des coupes-files.
Ah bah là, je suis carrément super privilégié, là. Je suis un peu le héros diurne dans la bibliothèque.
Juliette a choisi trois livres dans les rayons littérature étrangère et littérature française. On doit parler moins fort dans les allées de la bibliothèque.
Okay.
Mais je lui demande quand même de nous faire deviner les titres ou les auteurs et autrices des trois livres qu'il a choisis, en chuchotant.
Punaise, alors faut savoir que j'ai joué pour la première fois à Tabou pendant ces vacances avec des amis et j'étais le plus nul d'entre nous, mais alors de loin quoi, au point que je ne veux plus jamais jouer de ma vie. Mais je vais essayer quand même. Alors je vais aller dans l'ordre chronologique. Le premier, c'est un peu old school. Enfin, ça dépend quel âge on a. Moi, j'ai 38 ans. Il a été écrit par un homme qui adore jouer avec les mots, qui était président du mouvement de l'Oulipo. Le deuxième livre, c'est franchement la lesbienne la plus célèbre de France, même si c'est à titre posthume. Elle a écrit cette célèbre phrase « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », qui peut paraître énigmatique au premier abord. Et je pense que ça suffit pour la reconnaître, à mon avis. Le troisième livre, on est en 1969. N'y voyez pas d'indice, mais c'est une autre génie lesbien de la littérature. C'est de science-fiction.
On a pas mal d'indices.
Ah ouais, j'ai creusé.
Direction troisième étage pour aller chercher les livres élus par Juliette. Le sentiment d'effraction suscite souvent des éclats de rire.
On a les trois livres.
Youpi.
On dérange pas toutes les personnes très concentrées ici.
En route vers la chenille du centre Pompidou, cette série d'escalators qui nous emmène au studio d'enregistrement.
Dans Cui-Cui, Juliette Drouard, vous inventez une histoire qui se passe en 2027 et qui commence de façon très forte puisque des ados de 13 ans s'apprêtent à voter pour la première fois. C'est une utopie qui paraît très à portée de main et qui en même temps est un impensé.
Un peu pensé ou peu publicisé, parce qu'en fait il y a quand même pas mal de personnes qui réfléchissent la question des droits des mineurs ou plutôt de l'absence de droits des mineurs et notamment celle du droit de vote. Je reviens il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en Suisse justement pour écouter des projets politiques d'enfants entre 10 et 12 ans, qui ont des projets politiques très aboutis d'ailleurs. Et donc il y avait beaucoup de personnes qui là-bas sont sensibilisées à la question des droits des mineurs, des droits de vote. Et je crois que c'est aux Pays-Bas, par exemple, où on élit à la fois un maire d'une ville et on élit en même temps un enfant qui sera maire aussi avec lui, avec elle. Comme quoi c'est possible. Et surtout, si on prend le temps d'écouter les projets politiques ou les opinions politiques des enfants, on est toujours surpris parce qu'on se rend compte de tous les préjugés qu'on a, parce que c'est toujours très, très intelligent.
Alors l'histoire est racontée par un ado de 13 ans, assigné fille à la naissance, mais qui veut être genré au masculin. Et tout au long de l'histoire, en fait, on ne se demande pas vraiment si c'est une fille ou un garçon. On oublie son genre.
En fait, je pense que le mot oublier est pas mal. Je crois qu'il l'oublie aussi un peu. En fait, il ne veut pas être genré au masculin. Lui, ça lui semble assez naturel de genrer au masculin. Donc c'est aussi... Peut-être cette période de l'enfance où il y a des constructions sociales qui ne sont pas totalement enfoncées bien au fond de nos corps et de nos crânes, et où du coup on ne se rend même pas compte qu'on est en train de socialement faire quelque chose qui est très transgressif. Et moi-même, je me rappelle que quand j'étais jeune, je me rêvais comme un petit garçon, mais je ne me suis jamais dit, tiens, c'est chelou. C'est a posteriori, je me dis, le verre était dans le fruit, mais sinon, comme ça, ça me semblait tout à fait naturel. Et ça devrait l'être, par ailleurs.
Ce qui est frappant quand on commence la lecture de ce livre, c'est la langue. Il y a vraiment une joie immense dans cette langue. On prend un plaisir fou à entendre les voix de jeunes ados de 13 ans. Je suppose que c'est un plaisir que vous avez pris aussi. On sent que vous adorez ça.
C'est vrai. Moi, c'est un grand plaisir. La langue est un grand plaisir. Il y a de l'argot, il y a des anglicismes, mais en même temps des expressions très vieillottes.
Beaucoup d'humour dans cette langue, beaucoup d'inventivité.
J'espère. Et c'est vrai que pour moi, c'est un rapport aux autres d'être très curieux de la rencontre. Et quand il y a quelqu'un que j'aime, j'imite. Donc c'est vrai que quand j'aime quelqu'un et qu'elle aime jouer avec les mots, un truc que j'affectionne particulièrement et a des expressions créatives, je vais aller piquer ce petit truc-là et je le garde avec moi. C'est une forme de souvenir. Comme je disais, c'est aussi nécessaire pour... le personnage, cet humour, par rapport à ce qu'elle vit, pour aller à travers les violences qu'elle vit.
Alors, les violences que vit ce personnage, c'est le cœur aussi de vos essais précédents. Là, avec ce livre, vous passez de l'essai au roman. Les thématiques sont très, très liées. Vos essais montrent un continuum entre ce que vous appelez la culture de l'inceste et la privation de droits pour les enfants. C'est exactement ce que traduit ce roman sous la forme d'une fiction.
Ouais, c'est vrai. J'espère, si c'est réussi, que c'est effectivement plus qu'une illustration. sa vie par soi, et, mais c'est autour des mêmes enjeux. Et j'ai toujours aimé qu'il y ait des allers-retours essai-fiction, ou dans mes essais, il y a de la fiction aussi. Ce que je pense fondamentalement, c'est que on est tous, pour beaucoup d'entre nous, et je me compte dedans, un petit peu bousillés dans nos liens aux autres, alors d'une manière légère à aggraver. Et dans aggraver, je pense au passage à l'acte violent notamment. Moins l'autre a de pouvoir, et plus c'est facile de passer à l'acte. C'est une excuse en aucun cas. Mais du coup, les enfants, évidemment, sont en première ligne. Et elles portent bien leur nom de mineurs. Alors, enfant, à la fois, ça veut dire privé de langue, il me semble, dans son étymologie, et à la fois de mineur, donc minorisé. Donc, c'est des populations, effectivement, qui n'ont pas de droit, et où, du coup, c'est beaucoup plus facile de les écrabouiller quand on a ce rapport aux autres pétés dont on ne s'est pas ressaisi, et dont la responsabilité pour tout un chacun est de se ressaisir.
On pourrait parler de cuicui pendant des heures, mais on arrive au studio. C'est le moment de révéler les livres que Juliette a choisi d'emprunter à la bibliothèque.
Là, on est dans les sous-sols du Centre Pompidou, un endroit que peu de gens connaissent.
Je te confirme. C'est trop marrant, on a l'impression d'être dans la salle des machines d'un paquebot. En plus, moi, comme je parle et que je ne sais pas faire deux choses en même temps, du coup, j'ai rien suivi, pas trop au parcours. Donc là, je me retrouve vraiment dans une soute. Tu m'emmènes où, Lorraine?
On entre dans le studio d'enregistrement de la BPI, la fameuse salle des machines. On ferme bien la porte.
Alors, je vais prendre d'abord « La main gauche de la nuit » d'Ursula Le Guin. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Pour deux choses. D'abord, tu m'as demandé qu'est-ce qui m'avait inspiré pour l'écriture de ce roman. Et donc, j'ai été un peu en mal de te répondre parce que j'ai pas un livre qui m'a directement inspiré. Par contre, Ursula Le Guin m'a inspiré dans le sens où, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai lu une retranscription d'une conférence qu'elle avait donnée et où elle disait, oui, des fois, dans les mondes de l'écumène, donc qui est un des cycles, elle dit, en fait, des fois, il y a des petites incohérences parce qu'elle se laisse guider par ses personnages dans l'écriture. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant comme procédé d'écriture. Moi, d'habitude, c'est vrai que je fais quand même une sorte d'arc narratif ou deux, trois, enfin je sais un peu où je vais quand même. Et là, je me suis dit, bah, j'ai quand même laissé guider par cette espèce de voix intérieure qui avait jailli un peu dès le début. Et donc j'ai fait un peu la méthode Le Guin, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Et en fait, ça a donné cuicui. Et La main gauche de la nuit, c'est un livre que je trouve inspirant sur la question de la construction du genre dans nos sociétés, dans le sens où c'est un voyageur qui va sur une planète où justement il n'y a pas de genre. Et je lui rends hommage parce que c'est assez génial, parce qu'en fait on pourrait évidemment tous vivre d'abord en tant qu'être humain, avant de se vivre en tant qu'homme ou en tant que femme. Et donc le voyageur est très déboussolé par rapport à ça, et on le prend pour un rustre. Donc c'est ça qui est drôle aussi et qui me faisait rire, c'est que c'est vraiment ce rusto qui ne se vit que comme un homme tout le temps.
Donc c'est la question du genre et la méthode Le Guin. Est-ce que la méthode Le Guin, vous l'utiliseriez aussi dans l'essai, ou c'est vraiment propre à l'écriture romanesque à votre avis?
Bah, pour moi en tout cas, c'est propre à l'écriture romanesque. J'avoue que dans l'essai, je me prends carrément la tête pour qu'il y ait un plan et tout ça.
Donc le premier livre, c'était La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, qui est donc paru en 1969 aux États-Unis et qui a été traduit en français en 1971 chez Robert Laffont. Le deuxième livre?
Yes, en fait le 2 et le 3e livre, je les ai choisis pas parce qu'ils m'ont inspiré directement l'écriture, mais parce qu'on m'a fait remarquer, je crois que c'est Elisabeth Philippe qui m'a dit « Ah, mais ça me fait penser à Zazie dans le métro ». Et moi je l'avais pas lu, et donc je me suis dit « Bah c'est intéressant, je trouve toujours de rencontrer des auteuristes, on peut se reconnaître parfois dans l'autre ». Donc Zazie, elle a a priori 14-15 ans, et en fait elle est vachement gouailleuse, elle utilise plein d'expressions, elle résiste aux adultes, elle les envoie chier, elle est tout le temps machin mon cul. Ouais. Donc il y a un peu effectivement ce truc où en le lisant, j'ai pu me reconnaître un peu. Et la langue est hyper, en tout cas savoureuse, je suis très flatté qu'il y ait eu cette comparaison. Alors je vais lire le début. D'où qui pue donc tant? Se demanda Gabriel excédé. Pas possible, il se nettoie jamais. Dans le journal, on dit qu'il n'y a pas 11% des appartements à Paris qui ont des salles de bain. Ça m'étonne pas, mais on peut se laver sans. Tout cela qui m'entoure, ils doivent pas faire de grands efforts. D'un autre côté, c'est tout de même pas un choix parmi les plus crasseux de Paris. Il n'y a pas de raison. C'est le hasard qui les a réunis. On peut pas supposer que les gens qu'attendent à la gare d'Austerlitz sentent plus mauvais que ceux qu'attendent à la gare de Lyon. Non, vraiment, il n'y a pas de raison. Tout de même, mais quelle odeur!
Gabrielle extirpa de sa manche une pochette de soie couleur mauve et s'en tamponna le tarin. « Qu'est-ce qui pue comme ça ?» dit une bonne femme à haute voix. Elle pensait pas à elle en disant ça, elle n'était pas égoïste, elle voulait parler du parfum qui émanait de ce monsieur. « Ça, petite mère, » répondit Gabrielle qui avait de la vitesse dans la répartie, « c'est Barbouze, un parfum de chez Fior.
» Merci Juliette pour cette lecture. On vous souhaite la même trajectoire que Raymond Queneau parce que je crois qu'il était déjà reconnu par les critiques au moment où il a sorti ce livre, par un milieu intellectuel, et ça a été son premier grand succès populaire, ce roman.
Ouais, et puis en fait, à la lecture, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres choses communes. Notamment, c'est vrai qu'en termes de genre, en fait, cette Zazie, elle respecte pas les trucs. Elle veut le premier truc qu'elle veut, c'est un blouse jean. Et les petites filles, à l'époque, ne portaient pas de pantalon. Et en fait, il y a beaucoup, le sujet de la pédocriminalité est très fort dans ce livre, ce à quoi je m'attendais pas du tout. On comprend qu'en fait, cette Zazie, elle a été attouchée par son père, puis son beau-père.
Donc Zazie dans le métro, de Raymond Queneau, qui est paru en 1959 chez Gallimard. Le troisième livre que vous avez choisi ?
Alors le troisième livre que j'ai choisi, c'est le livre de Monique Wittig, L'Opoponax. Un lecteur de Cui-Cui, qui est responsable de la revue Collatéral, me semble-t-il. Joanne m'a associé à ce livre, qui est un livre de fiction. Alors moi, j'avais pas lu ce livre de Monique Wittig. J'avais lu La pensée straight quand j'ai écrit mon essai Sortir de l'hétérosexualité. C'est vrai que je lis beaucoup après, à l'endroit où j'écris, pour essayer de ne pas être trop influencé. Donc là, c'est pareil, je me suis dit, cool, du coup, je vais rencontrer ça. Et donc, c'est un livre où on essaye de se rappeler de l'enfance. C'est important pour le droit des mineurs. Si on oublie ce que c'était d'être enfant et d'avoir subi un certain nombre de dominations une fois qu'on est adulte, on ne peut que les reproduire. Il y a peu de livres là-dessus. Et donc, Monique Wittig réussit une sorte de tour de force littéraire parce que sa narratrice, au début, elle a 6 ans. Et à la fin, elle est jeune adolescente. Et on suit en fait l'évolution de son regard sur le monde dans cet âge-là et où à la fin, finalement, jaillit une forme de réflexivité sur le monde et ce qui lui arrive. Et l'autre chose en commun aussi, c'est peut-être la question du genre sexualité. Parce que l'Opoponax, après j'ai regardé un interview d'elle, parce qu'on la questionne beaucoup, c'est quoi l'Opoponax en fait ? Et à l'époque, ça décrivait quelque chose de l'ordre de la pharmacopée, parce que c'est une plante qui était utilisée dans la pharmacopée, mais principalement à l'époque pour les femmes. Je ne sais pas si on dirait aujourd'hui peut-être le collagène. Donc il y avait un registre de genre qu'elle retourne. Parce que du coup, l'Opoponax, dans ce livre, c'est pas du tout associé au genre féminin en particulier. Et ce mot dans ce livre est prononcé très tard, peut-être à 2/3 au moins du roman. C'est d'abord quelque chose d'inquiétant, qui représente le danger, qui arrive quand elle rencontre une autre jeune fille, et où il y a une forme d'amitié assez passionnée qui se lie, donc on peut le voir aussi comme la naissance du désir et l'inquiétude de la naissance du désir, et une forme de réflexivité sur soi, une conscience de soi sociale aussi, qui est inquiétante. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se rend compte de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas par rapport à ce qui est attendu. Et c'est vrai que moi, dans l'Opoponax, il y avait aussi ça, elle ne le dit pas dans l'interview. Donc c'est moi comment je l'ai perçu. Pour moi, j'y ai lu la lesbienne ou la lesbianité dans le sens où il y a une forme de dahu, quoi. Un truc un peu inquiétant qui commence à surgir. Et elle dit, je suis l'Opoponax. Donc pour moi, désolé, ça m'émeut énormément de parler de ça. Je ne pensais pas. Mais dans le sens de se découvrir lesbienne, même si on n'a pas le mot pour le dire. Est-ce que ça peut faire naître d'inquiétude et de danger éventuel pour soi ? Donc je ne sais pas si je peux lire un tout petit extrait.
Bien sûr.
Alors c'est le tout début. Le petit garçon qui s'appelle Robert Payan entre dans la classe le dernier en criant « Qui c'est qui veut voir ma quéquette ? Qui c'est qui veut voir ma quéquette ?» Il est en train de reboutonner sa culotte. Il a des chaussettes en laine beige. Ma sœur lui dit de se taire. « Et pourquoi tu arrives toujours le dernier ?» Ce petit garçon qui n'a que la route à traverser et qui arrive toujours le dernier. On voit sa maison de la porte de l'école. Il y a des arbres dedans, devant. Quelquefois, pendant la récréation, sa mère l'appelle. Elle est à la dernière fenêtre, on l'aperçoit par-dessus les arbres. Des draps pendent sur le mur. « Robert, viens chercher ton cache-nez !» Elle crie fort de façon à ce que tout le monde l'entende, mais Robert Payan ne répond pas, ce qui fait qu'on continue d'entendre la voix qui appelle Robert. La première fois que Catherine Legrand est venue à l'école, elle a vu de la route la cour de récréation, l'herbe et les lilas au bord du grillage. C'est du fil de fer lisse qui dessine des losanges. Quand il pleut, les gouttes glissent et s'accrochent dans les coins. C'est plus haut qu'elle. Elle tient la main de la mère qui pousse la porte. Alors je vais m'arrêter là, mais c'est au début, il y a un côté très descriptif et de l'enfance un peu qui passe comme ça, c'est des faits quoi. Il y a très peu de pensées de ses émotions, de ses propres réflexions. Et une autre chose peut-être commun, et je m'arrête là, mais c'est l'effet de violence adulte par rapport aux enfants qui arrivent et qui... on voit que telle institutrice donne des coups de pied à un enfant qui est par terre à l'école. Et qu'en fait, c'est très commun. Il y a toujours ces formes de violence des adultes sur les enfants aujourd'hui. À l'époque, c'était encore plus marqué, avec beaucoup de manuels d'éducation de cette époque-là qui enjoignaient aussi à avoir ce type de violence envers les enfants pour pouvoir les éduquer. Donc ces faits-là, comme ça, qui ne sont pas forcément analysés par l'enfant, mais dont elle est témoin. Email, le texte.
Donc L'Opoponax de Monique Wittig, paru en 1964 aux éditions de Minuit. Il a reçu le prix Médicis en 64 et il a été réédité en 1983 avec une postface de Marguerite Duras. Merci Juliette Drouard.
Merci beaucoup Lorraine.
C'était Par Effraction, le podcast produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Si vous avez écouté cet épisode avant le 16 février 2025, rendez-vous ce jour-là à 16h au Centre Pompidou dans le cadre du Festival de littérature du réel Effraction de la BPI pour une rencontre croisée entre Juliette Drouard, Dede Cabal et Marika Mathieu sur le thème « Enfance abîmée ». À tout autre moment, vous pouvez découvrir les essais et le roman de Juliette Drouard en bibliothèque ou en librairie. Et si ce podcast vous a plu, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. À bientôt !